Le reportage de la rédaction sur le phénomène des fermes urbaines, elles s'installent peu à peu dans nos villes et gagnent du terrain, c'est heureux. Faire pousser salades, champignons, safran ou tomates dans les interstices urbains, dans les parkings ou sur les toits, et puis les vendre ensuite localement en organisant des circuits courts, voilà le principe de l'agriculture urbaine. Le dernier projet d'envergure à Paris l'illustre. Le toit du pavillon 6 du parc des expositions de Versailles s'apprête à accueillir la plus grande ferme urbaine d'Europe, plus de 14 000 m². C'est l'équivalent de deux terrains de football qui seront dédiés au maraîchage à partir du printemps. L'agriculture urbaine est une affaire sérieuse, affirme le Conseil économique, social et environnemental dans un avis rendu en juin de cette année. Mais une ferme en ville peut-elle être à la fois durable et rentable? C'est la vraie question. Élément de réponse avec ce reportage sur les toits de Paris de Céline Autain.
Là, on est sur donc les légumes d'hiver. On a beaucoup de salades, de choux, des radis, des ciboules. Et après, on a toutes les zones de biodiversité avec les fleurs comestibles et aussi juste des plantes qui vont permettre à la biodiversité de s'installer.
Sur les toits de l'Opéra Bastille à Paris, l'heure est à la récolte pour Marie Carcenac, chef maraîchère pour l'entreprise Topager. Elle s'occupe de 2 500 m² de légumes, de fleurs et de feuilles plantées depuis un an et demi sur 4 toits terrasses du bâtiment.
C'est des planches de culture surélevées avec un cadrage en bois. On est vraiment juste avec un petit voile anti-insectes pour protéger des éventuelles attaques de ravageurs. Ensuite, on vient mettre un petit voile d'hivernage qui fait gagner quelques degrés, mais on n'a pas de serre chauffée, on n'est pas sous tunnel froid, donc c'est sûr qu'il faut apprendre le rythme des saisons.
Seule différence avec une ferme classique.
Tout le travail est exclusivement manuel. Physiquement, il y a plein de marches. Et donc oui, la manutention est aussi un peu plus compliquée, puisque donc on n'est pas sur quelque chose de plein pied. On n'est pas sur la même parcelle, par exemple, on a beaucoup d'allées et venues. Et donc pour valoriser ça, on a quand même une grille de prix qui va coller sur une grille de prix bio pour valoriser aussi tous ces efforts-là.
En un peu plus d'un an, cette micro-ferme a vendu 2 tonnes de fruits et légumes aux salariés de l'Opéra et un restaurateur local. Une production pour l'instant pas assez lucrative au regard des 50 000 euros investis au départ par l'entreprise.
Ici, c'est vraiment un espace test pour voir comment un projet qu'on veut autonome, en fait, comment ça peut marcher, quel modèle économique on peut essayer de trouver, des manières de fonctionner. Là, on développe aussi les visites, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et donc après aussi, entre certainement le bénévolat qui devrait se mettre en place correctement, des ateliers et des formations qu'on pourrait vendre également, ça ouvrirait vraiment le champ à tout ça.
Des efforts scrutés de très près par la mairie de Paris, c'est elle qui a permis l'installation de Topager dans le cadre des appels à projets Pariculteurs. Depuis 2016, ils ont permis l'installation de 23 sites d'agriculture urbaine qui devraient être rejoints par une vingtaine d'autres d'ici mars 2020. Un accompagnement essentiellement logistique. Pénélope Comites, adjointe chargée des espaces verts et de l'agriculture urbaine.
On est vraiment la seule collectivité à avoir lancé des appels à projets à cette hauteur en termes de surface, et puis surtout avec cette volonté d'accompagner tous les porteurs de projets. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Parce qu'il faut souvent déposer des permis de construire, il faut régler des problèmes techniques, des problèmes de garde-corps, des problèmes d'étanchéité, et avec notre assistant à maîtrise d'ouvrage pour que voilà chacun puisse faire tout seul après. C'est ça. L'idée, c'était d'être moteur, catalyseur. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous a passionnés.
Sans aide publique ni débouché assuré, l'avenir des micro-fermes urbaines reste incertain. C'est ce que souligne le Conseil économique, social et environnemental dans un rapport de juin 2019. Le CESE cite l'échec d'Urban Farmers à Bâle, obligé de mettre la clé sous la porte après 6 ans d'existence. Un constat partagé par Antoine Lagneau, à la tête de l'Observatoire régional de l'agriculture urbaine en Île-de-France.
On sait très bien qu'en la matière, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de modèle économique qui tourne en agriculture urbaine. Parce que soit vous n'avez pas les surfaces suffisantes pour produire en grande quantité et vous assurer donc une pérennité financière, soit parce que quand vous faites de l'agriculture urbaine sur un toit ou dans un espace qui ne soit pas de la pleine terre par exemple, qui nécessite beaucoup d'infrastructures techniques, ce sont donc des investissements à la base et bien entendu, pour pouvoir les rentabiliser, il faut derrière avoir de la production. Or, tout ça n'est pas forcément en adéquation. Et je crois que l'agriculture urbaine, elle ne contribuera qu'à la marge à l'alimentation des villes et donc ne sera que ce qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire un marché de niche. Et dans un marché de niche, il y a peu d'acteurs qui réussissent à se maintenir en général.
Si elles n'ont pas encore trouvé leur modèle économique, ces micro-fermes contribuent cependant à végétaliser nos villes, aux côtés des jardins familiaux et des jardins partagés.
Céline Autin, reportage à retrouver sur franceculture.fr. Dans une dizaine de minutes, nous évoquons la situation en Iran, où la contestation contre le régime ne faiblit pas, même à bas bruit. Nous serons avec l'écrivaine iranienne Fariba Ashtroudi.